Riviera Ferraille.
Dans le jardin, le fantôme de Bargemont, ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères.
Bonsoir, bienvenue dans le bureau des mystères, l'émission qui recense tous les mystères du monde. Je suis Mathias.
Et je suis Charles. Après l'épisode Creepypasta, qui apparemment vous a plu, donc déjà merci pour vos retours. On a fait une émission un petit peu plus flippante que d'habitude, peut-être. Et ben là, on va changer de ton. On va se décaler un petit peu. On va avoir une émission, disons-le, peut-être un petit peu plus rigolote, un petit peu moins flippante, puisque la thématique du jour, c'est les mystères de Provence. Et qui de mieux pour parler des mystères de Provence que Henri Michel ?
Salut ! Premier à la machine à café du bureau des mystères. Ça va les gars?
Ça va et toi?
Ça
va. Tu veux te présenter Henri? Ou on te présente?
Vous pouvez me présenter?
Allez. Alors Henri Michel, patron de Riviera Ferraille, host de Riviera Détente, le podcast qui dilate vos membranes et les nôtres aussi. Et bah ce soir on va se les dilater ensemble hein.
Eh oui, je suis très honoré d'être dans le bureau des mystères. Vous m'avez donné du travail pour raconter un mystère de Provence. Je suis très honoré. J'ai très hâte d'écouter les vôtres et de me faire peur.
Oh bah ça.
Eh ben écoute,
je suis terrifié d'avance.
Alors je sais pas si terrifié ça va être la tonalité de cette émission, mais en tout cas on va faire ce qu'on peut avec une première histoire un petit peu effrayante.
Yes.
Un petit peu. Le fantôme de Bargemont. À Bargemont, dans le département du Var, il existe un immense domaine qui est autrefois occupé par un diplomate britannique, et depuis son esprit entrait les lieux, il aurait même troublé la tranquillité de ses nouveaux propriétaires au point de les faire fuir. Carrément. Et ses propriétaires, ce sont en fait des stars, parce que oui, quand on dit Provence-Côte d'Azur, on pense souvent à la mer, à la tradition, à la jolie nature, la bonne odeur du romarin, mais on pense aussi aux stars. Il y a beaucoup de stars qui sont installées sur la Riviera, notamment Elton John, qui a une maison dans les hauteurs de Nice, ou Angelina Jolie et Brad Pitt, bon, même s'ils sont séparés depuis, ils avaient quand même le domaine de Miraval. Il y a Johnny Depp qui a passé longtemps ses vacances d'été avec Vanessa Paradis à Plan de la Tour. Il y a même Bono.
Il y a Patrick.
Il y a Patrick. Il y a Henri Michel. Il y a Marie Sinclair. Il y a John Malkovich, Mel Gibson. Enfin, il y a beaucoup de stars qui ont des maisons sur la Riviera. Bon, il y a aussi tous ceux qui débarquent à Saint-Tropez en location, mais bon, c'est pas les mêmes, ou sur des gros yachts. Mais il y a aussi les Beckham. Et les Beckham, ça a été parmi les premières grandes stars de cette génération-là à s'installer en Provence. Elles sont arrivées en 2003. En fait, en 2003, elles ont visité le domaine Saint-Vincent, à Bargemont, tout près de Draguignan. Et Victoria a totalement craqué pour la bâtisse. Donc c'est une vieille bâtisse qui date du 19e siècle. Elle n'est pas en très bon état au moment où ils la visitent, mais elle a vraiment beaucoup de charme. Il y a 6 chambres, il y a de beaux espaces, des belles terrasses, un terrain de 80 hectares arboré qui est plutôt joli, on pourrait même dire magnifique. Il y a vraiment une impressionnante piscine, beaucoup de plans d'eau, des grands jardins, des fontaines avec des sculptures raffinées dessus. Bref, c'est superbe, bon, un peu délabré et laissé à l'abandon, parce que ça fait 2 ans que c'est à l'abandon à ce moment-là, mais les Beckham ont un vrai coup de foudre et ils ne cherchent même pas à négocier le prix. Ils l'achètent pour 1,77 million d'euros, quand même, hein, l'immobilier dans la Riviera.
Oh, bah, ça va.
C'est une affaire. Hein.
Ça va, ça, c'est une affaire. Hein. Par rapport au produit, c'est correct.
Bah écoute, je pense qu'ils ont dû voir que le prix les branchait plutôt pas mal, puisque Victoria Beckham a, selon la presse locale, son Var Matin, exigé immédiatement à signer juste après la visite. Juste après la visite, clac, ah ouais. Contrat de vente.
Sur un coup de tête, boum.
Comme si elle avait été un peu envoûtée.
Un petit peu, ouais. Bah, tu ne crois pas si bien dire, mais en fait, c'est pas un envoûtement plutôt positif. Hein. En fait, les Beckham auraient peut-être dû se renseigner sur ce domaine avant de l'acheter, parce qu'en 2006, le Daily Mail a révélé qu'en 3 ans, donc entre 2003 et 2006, les Beckham n'ont pas passé une seule nuit à Bargemont, au domaine Saint-Vincent. Et pourquoi, est-on droit de se poser? Eh bien, selon une source du Daily Mail, ce serait à cause du fantôme qui entrait les lieux. Je vais vous dire une citation d'une des sources du Daily Mail, Victoria a vraiment peur, et elle ne supporte plus cet endroit.
Oh là.
Parce que peu...
Mais pourtant, ils n'ont pas passé une seule nuit dedans.
Non.
Ils ont eu peur de deux jours.
C'est ça, deux jours. Et ils ont eu peur surtout voilà. par rapport au bruit. Parce qu'ils ont, appris juste après, peu avoir acheté le domaine, la sinistre réputation du domaine Saint-Vincent, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes du village alentour qui ont qui parlaient de cette histoire-là, et c'est arrivé jusqu'à leurs oreilles. En fait, c'est horrible.
Et vous, c'est-à-dire, ils arrivent tout fiers dans le village et disent « Ah, vous avez pris Bargemont ? Oh putain, il est fantôme, je vous dis pas. »
Putain,
il
est con. Donc du coup, ouais, ils sont arrivés et selon certains habitants du coin, il y a le fantôme du précédent propriétaire qui s'est suicidé en 2001, qui aurait été aperçu plusieurs fois en train de rôder, de flotter autour de la maison.
Est-ce que c'était une célébrité aussi, le précédent propriétaire, ou pas ?
Alors, ce n'était pas une célébrité, mais c'était quelqu'un d'assez connu dans la région, parce qu'en fait, donc, c'était un de ces nombreux Britanniques qui se sont installés sur la Côte d'Azur et qui étaient très proches des gens du village. Donc, ce monsieur, il s'appelait Leslie Duck. C'était un ancien diplomate donc, britannique qui vivait là avec sa femme. Putain, j'attendais qu'il y en ait un qui la fasse.
Sa femme s'appelait Daisy.
Donc Leslie Duck, qui vivait ici avec sa femme, Catherine de Charmer. C'est un agent immobilier de Bargemont qui a raconté en fait au Daily Mail à quel point ce couple-là avait super bien entretenu le domaine à l'époque. C'est eux qui ont fait construire en fait les fontaines, tous les trucs très élégants qui ont fait craquer Victoria Beckham. Et à l'époque où ils y vivaient, c'était un lieu qui était très vivant, quoi. Il y avait beaucoup d'amis qui passaient, du beau monde, de la haute société, n'est-ce pas ? Qui venaient ici pour écouter des petits concertos de musique classique, on refaisait le monde autour d'un whisky ou d'un verre de brandy. Donc on était vraiment dans une atmosphère plutôt sympa, quoi. Leslie Duck, d'ailleurs, ressemblait un petit peu... donc ça, c'est la description que fait l'agent immobilier, ressemblait un petit peu à Hemingway. Il avait une grande barbe blanche, il aimait, comme ça, se poser soit chez lui, quand il recevait des gens, soit dans les bars du coin pour aller boire des pastis et raconter des histoires.
Ah.
Il aimait raconter des histoires parce que Leslie Duck, sa grande passion dans la vie, c'était l'histoire avec un grand H. Il aimait tout particulièrement l'amiral Pierre-Charles Villeneuve, c'était un officier de la bataille de Trafalgar, un officier français. Et il avait été fait prisonnier par les Anglais. Et donc ça l'avait tellement humilié, il avait été humilié par la défaite de la France, qu'il s'était suicidé un an plus tard, juste après avoir été relâché. Et ce personnage historique, c'est vraiment quelqu'un que Leslie Duck aimait beaucoup. Ce côté d'avoir voulu garder son honneur en se suicidant comme ça, ça l'a beaucoup marqué. Et pour Leslie Duck, le suicide, ça n'avait rien de dégradant. Alors, quand il a appris que lui-même...
Je crois qu'on l'a perdu, là.
Ah, ça...
Pardon.
Ça va bien se passer. Ça n'a rien de dégradant. Ce n'est pas sale.
Ouais. Il est mal barré, quand même.
Et bah, tu vois qu'il était réellement mal barré, médicalement parlant aussi, parce que, justement, il a appris, vers la fin de sa vie, forcément, qu'il était gravement malade. Et il a préféré mourir avant d'être trop faible. En fait, Leslie Duck, quand il parlait pas d'histoire, il aimait beaucoup le sport. C'était sa deuxième grande passion, le sport. Et selon certains de ses proches, il aimait beaucoup marcher en forêt, il pratiquait la natation, et il croyait beaucoup à l'idéal grec, tu sais, de un esprit sain dans un corps sain. C'était vraiment son motto dans la vie. Et malheureusement, une sclérose en plaques a tout fait voler en éclats, parce que si son esprit était toujours aussi alerte, ben son corps forcément ne suivait plus. Et il a très mal vécu cette situation, il se considérait comme un poids pour sa famille. Alors un jour, en 2001, il s'est installé dans son bureau, il a pointé un fusil sur sa tête et il a appuyé sur la détente. Leslie Duck a été incinéré, et sa femme a placé ses cendres dans la chapelle du domaine Saint-Vincent. Et quelques mois plus tard, comme elle se sentait trop seule sur les lieux, elle est partie. Et c'est à partir de ce moment-là que les apparitions ont commencé. Il y a un habitant des environs qui a confié au Daily Mail que plusieurs personnes avaient vu un fantôme avec une barbe blanche, un petit peu comme celle de Leslie Duck en l'occurrence. Il n'était pas agressif, il était juste là. Et parfois, il venait marmonner des choses à propos de grandes batailles ou d'événements historiques, un peu comme il le faisait de son vivant, finalement. Des ouvriers qui travaillaient près du domaine l'ont aussi aperçu un soir, et ils ont reconnu sa barbe blanche assez caractéristique. Et forcément, voilà, ces rumeurs locales ont fini par arriver aux oreilles des Beckham, à partir de ce moment-là, ils ont renoncé à venir, hein. Il y a même Varmatin qui dit que Victoria ne tenait pas à croiser le revenant un soir d'insomnie. Du coup, elle a tout fait pour l'éviter. Et lors de leur séjour en Provence, qui ont été nombreux, hein, puisque les Beckham aiment beaucoup le sud de la France, ils allaient plutôt dormir chez Elton John, qui a une villa près du fort de Montalban.
C'est dire ton niveau d'effroi, de préférer dormir chez Elton John plutôt que chez toi.
C'est ça, exactement. Dans la Villa Rose d'Elton John. qui a
c'est
très
vrai
bon goût en décoration. Ouais, effectivement, on l'appelle la Villa Rose.
Ah bah, s'il a décoré comme il se fringue, elle doit être fun, la maison. Hein. Ça doit être,
Elle doit être plutôt cool, là, j'avoue. Donc du coup, les Beckham ne sont pas revenus avant longtemps, hein, finalement, parce que je rappelle qu'ils l'ont acheté en 2003, et il a fallu attendre 2009 pour qu'ils reviennent. 2009, c'est le moment où David Beckham jouait pour l'AC Milan, donc de l'autre côté de la frontière, donc c'était plutôt sympa de venir, c'est pas trop loin, quoi. D'ailleurs, à cette époque-là, on l'a vu faire son footing sur les routes près de Bargemont, on l'a aussi aperçu au village, il a participé à des événements avec le maire et tout ça.
Qui, Leslie Duck ou...
Non, David Beckham.
Ah, je croyais le fantôme qui faisait son footing, je comprenais plus.
Et tu pensais qu'il y avait un joueur fantôme à l'AC Milan.
Non, mais j'avais pas fait la transition avec le footing, d'accord. Ouais, donc, du coup, ils ont dormi là pendant cette période
Pendant cette période, ouais, ils sont retournés là-bas, ils ont fait de gros travaux, sans doute peut-être, pensant que ça éloignerait l'esprit. Ils ont fait quand même pour 5,8 millions d'euros de travaux, hein.
Ah donc ouais, ils ont construit une nouvelle maison en fait, ça, non, ils ont rasé l'ancienne.
Le truc. D'ailleurs, il y a les photos qui sont disponibles sur le Daily Mail de la rénovation qui a été faite après, où tu vois l'intérieur mais complètement mauvais goût, nouveau riche anglais, c'est très très moche. Mais tu sens qu'ils ont voulu casser un petit peu l'âme du lieu pour mettre vraiment leur touche, et peut-être en se disant, bon voilà, ça suffit les conneries, on verra sans doute plus le fantôme s'il reconnaît plus sa maison. J'imagine que c'était ça l'esprit. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi, parce que malgré cet investissement, à partir de 2013, ils ne sont plus jamais revenus. Ils ont mis leur domaine en vente en 2015, à un prix assez classique, hein, qui couvrait les frais, et finalement, en 2016, ils l'ont mis en vente pour seulement 2,7 millions d'euros. Donc en comptant les travaux, ils perdraient 4,8 millions d'euros, c'est énorme, la perte d'investissement est monstrueuse. Et pour la presse britannique, ce départ-là, qui est quand même à très gros frais, ça s'expliquerait par la présence de l'esprit de Leslie Duck. Et d'ailleurs, le Daily Mail a contacté Maître Sparks, qui était l'ancien avocat de feu Leslie Duck, qui leur avait conseillé, dès 2006, au Beckham, de faire venir un exorciste. Et ils n'ont visiblement pas écouté son conseil, ils ont préféré juste partir.
Et la baraque a été rachetée, alors, du coup ?
Non, elle est toujours en vente.
Ah, elle est toujours
en
vente.
Donc ils n'arrivent pas à s'en défaire, mais en même temps, vu que maintenant la presse du monde entier a dit que la baraque était hantée, c'est peut-être plus compliqué de la vendre.
Pour toi, c'est le fait que ce soit hanté ? C'est pas la déco, plutôt ?
Parce que la déco, c'est compliqué. Quoique, tu sais, c'est une déco qui plairait bien, genre, à des gens qui aiment bien le rococo, genre des Russes ou des Qataris, tu vois.
Bien sûr, c'est ça. Il
y a pas mal de Russes qui cherchent des grosses baraques comme ça sur la Riviera, et je pense que ça rentrerait totalement dans leur goût.
Mais en même temps, il faut un petit côté romantique pour croire aux fantômes. Je veux dire, s'ils n'ont pas eu de vision... explicite, tu vois, c'est qu'il faut un petit côté, comment dire, rêveur pour y croire. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, des hommes d'affaires qui n'y croient pas une seule seconde et qui l'achèteraient sans sourciller, tu vois.
Ou des amateurs.
Ou des amateurs. Des amateurs millionnaires de fantômes. Déjà, c'est devient plus fun, ça devient le début d'un film, ça. Mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Moi, quand je parle de ces histoires-là, il y a des gens, on en a tous dans notre entourage, qui sont 100% cartésiens, mais limite, ils te reprochent d'en parler, quoi. Tu vois, tellement ils trouvent ça débile, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs potentiels qui n'ont rien à faire d'un fantôme, qui le prennent absolument pas au premier degré.
Tu vois, le propre des histoires de fantômes, c'est que tu dis t'y crois pas, et en fait, quand tu passes une nuit là-bas, t'as quand même ce petit doute, ce petit frisson qui arrive, donc t'as quand même un petit malaise finalement.
Ouais.
Même si tu peux dire plein de fois que t'y crois pas, ouais, t'as toujours ce petit malaise, je pense.
Ouais.
Donc c'est pour ça que c'est peut-être...
Maintenant, on ne sait pas s'ils ont eu affaire à une rencontre pendant qu'ils y ont dormi.
Non, ça, a priori, ils ont pris toutes leurs précautions pour ne pas rencontrer le fantôme de Leslie Duck. Les gens qui l'ont vu, c'est vraiment des habitants des environs.
D'accord.
Donc voilà.
Ou alors c'est une formidable opération des habitants des environs pour pas avoir d'anglais à proximité.
ils voulaient pas avoir les Beckham. Cassez-vous.
Bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est cool. J'en avais entendu parler de loi, mais j'avais pas de détails sur l'ancien tenancier des lieux. C'est intéressant.
Ouais, d'ailleurs, l'histoire dit que s'il serait aussi attaché à ce point, c'est parce que justement, ce personnage historique, Villeneuve, dont il était a priori très fan, dont il aimait beaucoup explorer l'histoire, la famille de cet homme-là avait une maison pas très loin de Bargemont.
D'accord.
Et s'il avait acheté le domaine Saint-Vincent, c'était justement déjà parce qu'il aimait la région, mais aussi pour continuer ses recherches sur ce personnage historique qui est assez méconnu, finalement. Enfin, on connaît son nom, on connaît les grandes lignes de son histoire, mais il voulait connaître son histoire locale, son attachement à Bargemont. Et en fait, il est mort avant d'avoir pu terminer son travail de biographie de ce personnage historique. Donc on pense que si son esprit est toujours attaché au lieu, c'est parce que justement il a ça qui est resté en suspens de son vivant.
Ah ouais, il faut lui filer un stylo et Wikipédia et on exorcise la maison, quoi.
Exactement.
Je lui laisse un ordi portable et un carnet. Ah ouais, c'est beau, c'est le côté de l'œuvre inachevée qui condamne l'esprit à errer, c'est très beau ça.
Donc du coup, je pense qu'on est sur un degré de mystère assez élevé parce qu'en fait, finalement, on ne peut pas savoir. Il faudrait peut-être aller passer une nuit là-bas. Toi qui habites dans le coin, tu pourrais peut-être éventuellement...
Ouais.
Aller là-bas.
J'adore le canard, j'adore le confit de canard en plus, donc on va y aller. Moi je suis très trouillard, donc. Mais bon, il a pas l'air très méchant, donc on pourrait se faire une soirée. Vous savez, on peut faire un meet-up Bureau des Mystères et on la privatise pour une soirée.
Ouais, carrément, puis les Sidoc pourraient venir
voilà,
boire
pour
un pastis.
Pour fêter le 10e épisode ou... Bah ouais, c'est clair. Ouais.
Puisqu'a priori il aime bien faire
ça. J'ai un peu peur quand même.
Carrément. Bon, et sur le degré de mystère, Charles, qu'est-ce que t'en penses?
Plutôt pas mal, bah, pour que ça les ait fait à la fois acheter la maison à ce prix-là, partir et la revendre à si bas prix, c'est qu'il devait y avoir un truc, quoi.
Ouais,
bon, en même temps, je sais pas pour les Beckham ce que ça représente, tu vois, autant c'est un week-end en vacances.
Ou alors, c'est pas Donald, c'est Picsou qui a fait une plus-value. Il y a une histoire d'OP, tu vois, de l'immobilière pour faire une plus-value. On serait plus du côté de Picsou.
C'est possible.
Dans la famille Duck.
Écoute, je crois que le mystère, du coup, est résolu. C'est juste une énorme affaire.
Voilà, c'est Picsou.
C'est Picsou.
Il fallait lire à l'envers. C'est Picsou. Voilà, c'est résolu.
Allez. On passe à notre dossier, du coup.
Un ovni dans le jardin. En janvier 1981 a été enregistré un des rares cas d'OVNI ayant laissé des traces matérielles et tangibles, et ça se passe en France, plus précisément à Trans en Provence. Tu vois où c'est, Henri, Trans?
Ouais, mais moi je crois que c'était assez tôt. Trans égale OVNI dans mon imaginaire à moi.
Ah ouais?
Bah oui, je suis né en 78, donc j'ai à peu près connu Trans que par le biais de cette histoire.
D'accord, ouais.
Et je pense que pour beaucoup de Français aussi, parce qu'il y a eu la fameuse émission Mystère qui passait à un moment sur TF1, ils avaient consacré un gros dossier à Trans-en-Provence, et je pense que ça a beaucoup contribué à populariser l'idée que Trans-en-Provence égale OVNI, quoi.
Ouais, c'est puis il n'y a rien d'autre à Trans, hein. Il y a une chanteuse de cabaret.
En regardant un peu la chronologie, en fait, il y a eu des tonnes et des tonnes d'émissions, des tonnes d'articles, des documentaires, il y a même eu un bouquin écrit dessus, enfin bon. Oh. Donc oui, nous sommes le 8 janvier 1980, il est environ 17h, hein, donc 17h un 8 janvier fait quasiment nuit. À Trans-en-Provence, un homme âgé, à ce moment-là de 52 ans, est nommé Renato Nicolai, donc c'est un maçon d'origine italienne, construit à ce moment-là un petit abri de ciment. On trouve, alors c'est une petite parenthèse, on croise souvent son nom, on croise souvent différents noms pour parler de Renato Nicolai. Pour préserver son anonymat, pendant un moment, il avait notamment été nommé Collini, mais c'est toujours, on parle toujours de la même personne. Donc Renato construit un abri en ciment à l'extérieur de son domicile pour la pompe à eau de son jardin. Donc ceux qui ont un jardin et une pompe à eau comprendront le pourquoi du comment. Quand son attention est attirée par un sifflement. Alors il faut se figurer un petit peu, il est à l'extérieur de son jardin, il est sur un plan incliné et il est attiré par un petit sifflement. Et ce petit sifflement, en fait...
C'est un lutin.
C'est un lutin. Non, il lève les yeux vers le ciel, du coup, et il aperçoit, et là je cite, un petit engin couleur plomb. Alors on aurait pu en rester là, hein, et ça aurait été une histoire d'OVNI comme les autres. Hein, on a tous, à un moment donné, soit notre imagination a trop travaillé, soit on a vu un reflet, soit on a vraiment vu un OVNI. Mais voilà, ça nous est tous plus ou moins arrivé. Sauf que l'engin en question ne s'est pas contenté de passer, puisqu'il va entamer une petite descente et va se rapprocher à la verticale de son jardin.
Donc il va continuer à s'approcher. Il faut aller voir la pompe à Renato.
Voilà, là, c'est ça. Juste pour l'abri en ciment, en fait, c'était peut-être des extraterrestres eux-mêmes maçons qui venaient prendre des conseils auprès de Renato. Et donc, il va continuer à s'approcher, l'engin, comme ça, en descendant à la verticale, jusqu'à être quand même proche des 1 mètre du sol. Donc c'est pas un truc qu'il a vu loin dans le ciel. Hein. Et donc le témoin, ce qui sera notre seul témoin oculaire dans cette affaire, décrit l'engin comme lisse, dépourvu d'hublot, dépourvu d'antenne, un objet allongé et rond, gris mat. Il disait couleur plomb au début. Le rapport du GEPAN aussi, dont je reviendrai, sur lequel je reviendrai après, parle d'une forme ovoïde d'un diamètre de 3 mètres.
Écoute, Charles, je crois qu'on n'a jamais parlé du GEPAN dans cette émission. Tu vas définir ce que c'est que le GEPAN ?
Je vais, évidemment, je suis un professionnel.
Oh, bah, écoute, je t'en prie.
Non, mais juste pour la forme, je sais pas si vous avez, quelqu'un a vu Premier Contact. C'est ouais. Premier Contact. La description, c'est exactement.
Aussi grand que ça, non, plus petit. Plus petit, beaucoup
non,
plus petit.
Beaucoup plus petit, mais tu sais, il y en a. Enfin, ouais. Je vais pas spoiler le film du coup, mais.
Ouais. Ah oui,
est-ce que Premier Contact se serait inspiré de Trans-en-Provence ?
Ouais, écoute. C'est Renato, hein, ça, c'est
l'histoire. C'est Renato, hein, on est d'accord.
Sauf que dans l'histoire, Renato est à 4 grammes et que dans le film, ils sont tous parfaitement sobres. Mais. Il est clairement à 4 grammes.
C'est alors, t'as une hypothèse déjà, j'ai l'impression.
L'histoire a 40 ans, alors que c'est juste un Renato qui est à 4 grammes qui a raconté ça.
Écoute, peut-être. Pour autant, des traces ont été retrouvées.
Ah,
des traces ont été retrouvées.
Des bouteilles, un tas de bouteilles étranges sur le site de la soucoupe. Non, c'est Renato, ça, on le connaît Renato hein, dans le coin.
D'autant plus que Renato n'a pas peur, puisque ce qu'il va faire et ce que ferait finalement tout curieux, c'est se rapprocher de l'engin. C'est-à-dire que l'engin, là où je me suis arrêté dans l'histoire, il est à 1 mètre du sol. Il est à 1 mètre du sol et en termes de distance, Renato, il est environ là, en train de faire son abri pour la pompe à eau, il est environ à 50 mètres.
Mais on est deux jours alors.
On est deux jours, d'accord. Mais à 17h, hein, 8 janvier, on peut dire qu'on enregistre à peu près En fait, on va fêter l'anniversaire de cet événement dans pas longtemps. À 17h, il n'y a plus beaucoup de lumière. Donc, il va se rapprocher de l'engin, sauf que une fois qu'il va marcher en direction de l'engin en question, celui-ci va redécoller à la verticale. Et du coup, selon le rapport du GEPAN dont je vais vous parler après, il va repartir très rapidement, sans pour autant soulever la moindre poussière. Il va partir sans bruit, sans soulever de poussière, sans faire de dégâts, il va remonter vers le ciel, et l'objet va remonter très rapidement à 50 mètres de hauteur, et va se diriger après tranquillement vers l'est. Donc tout ça, tout ce que je vous raconte, je l'ai su notamment parce que j'ai pu avoir accès donc notamment au rapport de police, mais aussi au rapport du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés créé en 1977, année de sortie du premier Star Wars. Donc il y a peut-être une corrélation à faire entre le premier Star Wars et le GEPAN. Et donc il devait se baser, le GEPAN dit en tout cas se baser sur les rapports de la gendarmerie nationale, de l'aviation civile, de l'armée de l'air et de Météo France. Et qu'en croisant ces rapports, ils arrivent à avoir des résultats. Il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire sur Wikipédia quand je me suis renseigné du coup sur ce GEPAN. Ils disent notamment la validité des travaux du GEPAN et de ses successeurs, donc le CEPRA puis le GEPAN écrit différemment, est vivement critiqué par les sceptiques. Alors, en principe, ce qu'on appelle, ce que Wikipédia appelle les sceptiques, en fait, c'est juste les scientifiques. C'est-à-dire que sceptique, c'est la base. C'est exactement la base du travail scientifique, c'est d'être sceptique à la base. Donc, du coup, quand Wikipédia dit est critiqué par les sceptiques, c'est que voilà.
Ouais, mais en même temps, c'est dangereux de se la jouer un peu groupement officiel de validation quand au sein du groupement t'as sur 50 personnes t'en as 45 qui ont envie d'y croire quoi, tu vois, ça me rappelle une certaine série, mais c'est bien quand c'est 50-50 tu vois.
J'ai peur
que le GEPAN ait toujours un petit côté encore une fois romantique de vouloir y croire quoi, tu vois.
Ah oui, sans doute. Je doute pas, ils sont en plus ils sont de bonne foi hein. J'ai parcouru leurs documents et tout, ils sont dans la description et tout hein.
Ouais,
donc Du coup, Renato sera le seul témoin, donc comme je disais, est distant d'une cinquantaine de mètres en premier lieu sur son terrain et donc sur sa maison qui est un peu en flanc de colline. Donc il avait une vue quand même, il était un peu en hauteur, il avait une vue dégagée sur le jardin.
J'ai remis ma pompe à eau, j'ai vu la boule énorme, elle était descendue et j'ai ouvert une petite bouteille pour fêter ça.
Impression quand même que Renato est le seul témoin d'un truc qui n'a fait aucune trace en arrivant et aucune trace en partant.
Exactement.
Il est potentiellement témoin de rien.
Alors si, non, attends, Mathias, tu vas un peu vite. J'ai dit que c'était un des rares ovnis qui avait laissé des traces de son passage. Et ouais. Après, je te lirai le rapport de police et tu vas beaucoup moins rigoler. Okay. Tu vas voir. Donc l'observation, mine de rien, pour Renato va durer entre 30 secondes et une minute. Donc lui, il va dire qu'il a quand même vu ça quasiment une minute. C'était pas un flash, c'était pas un truc, voilà, c'était pas bref. Il a pu l'observer pendant une minute, c'est hyper long hein, pour ce genre de cas. Mais surtout, donc, l'engin ne va pas toucher le sol, mais va laisser des traces, et notamment deux arcs de cercle, ressemblant à des traces de ripage de pneumatique d'une largeur de 10 cm. Donc là, il va y avoir aussi tout un petit jargon scientifique, tout simplement pour parler de burn. Tu sais, quand tu fais des burns avec ta moto ou ta voiture, là, c'est à peu près ça, en fait. Donc, je vais vous faire une rapide chronologie pour vous présenter un petit peu le déroulé de cette affaire. Donc, qui a eu lieu, comme je vous disais, le 8 janvier 1981. Le lendemain, à 12h, appel à la gendarmerie, donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même attendu le lendemain pour appeler les gendarmes. L'histoire raconte que Renato en a d'abord parlé à sa femme, qui en a parlé à la voisine. La voisine a dit d'appeler la gendarmerie, mais bon, tout ça fait qu'ils ont appelé la gendarmerie le lendemain. La gendarmerie qui a effectué un prélèvement de terre et d'herbe et a pris des photos. Donc on peut voir des photos du jardin de Renato.
Et de la pompe à eau.
Non, pas de la pompe à eau, elle était pas dans le jardin, elle était un peu plus haut.
Non, mais Mathias, il est quand même bien déconcentré, là. Il construisait l'abri pour la pompe à eau.
Et la pompe à eau, c'est pas... tu sais, tu fais pas la pompe à eau là où...
Dans c'est peut-être jardin, la pompe à eau qui arrive.
Tu peux tirer l'eau.
C'est peut-être Amazon qui livrait la pompe à eau.
Par drone.
Non, 78, c'est pas... ça marche pas.
Bah non, mais c'est... Oui,
c'est une livraison par drone. C'est ce que
voilà,
je dis.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai retrouvé le procès verbal de la gendarmerie, comme je disais, qui dit ceci sur les traces laissées par l'engin. Nous constatons la présence de deux cercles concentriques, l'un de 2,20 m de diamètre, l'autre de 2,40 m de diamètre. Ces deux cercles laissent apparaître une couronne de 10 cm d'épaisseur. Sur cette couronne sont nettement visibles deux parties diamétralement opposées d'une longueur de 80 cm.
Oh putain, c'est bac S là, attends. C'est un schéma là.
C'est pas bac S, c'est juste hyper mal écrit. Ah. Ces deux parties présentent des stries noires semblables à des traces de ripage. Donc, comme je disais, des espèces de burn faits avec une voiture ou une moto. Quelques traces herbeuses situées sur ces parties présentent une couleur plus sombre. Donc, on n'a absolument pas beaucoup plus compris à quoi ressemblaient ces traces après avoir lu le rapport de la gendarmerie, notamment parce que dedans, il y a des fautes d'orthographe et qu'il est mal écrit.
Mais ils étaient à 3 grammes aussi. Hein. C'était... voilà. J'ai jamais vu les traces. L'interrogatoire, ça doit être la plus belle archive vidéo des années 80. Alors, j'ai vu quoi ? Alors, j'ai vu des secoupes volantes. Ça y est, on l'a mesuré.
Et on apprend aussi dans ce document... qui est assez intéressant parce que du coup, la gendarmerie aussi dit qui elle a contacté pour avoir des avis d'experts. Parce que bon, des avis d'experts sur les ovnis, et voilà, on sait pas toujours vers qui se tourner. Mais la gendarmerie a quand même fait l'effort d'appeler le centre d'études des phénomènes spatiaux. Donc, qu'elle a contacté la gendarmerie, mais il est juste écrit dans la ligne d'en dessous qu'ils ont jamais répondu aux appels de la gendarmerie. Ils sont jamais allés sur place et la prise de contact n'a pas donné de suite.
C'est top. X-Files, s'il commencerait comme ça, il n'y aurait pas de série.
C'est l'enquête la plus bâclée du monde, quoi.
Ah, mais c'est... Ouais. Et alors, les médias vont réagir, hein. Là, on est le vendredi 9 janvier, mais le samedi 10, donc 2 jours après, article de Nice Matin.
en page départementale et locale, et article de Var Matin République, qui, pour parler du coup de la présence potentielle d'ovnis dans la région.
Pourtant, aucune poule n'a été écrasée dans la manœuvre, pourtant.
Non, aucune, non.
Donc c'est un acte courageux de journalisme, pardon.
Et le lendemain encore, donc le dimanche, parution d'un article encore dans Nice Matin en page départementale, avec erreur du journaliste qui signale que le témoin édifiait un mur, attention, alors que c'était pas du tout ça qu'il était en train de faire, et qu'il édifiait ce mur le vendredi 9 et non le jeudi 8 janvier, donc imprécision de la presse locale. Ensuite, je continue, mais là, j'ai bientôt fini avec la chronologie, lundi 12 janvier, 4 jours après les faits, Telex de la Gendarmerie Nationale au GEPAN. Donc je pense qu'à ce moment-là, la Gendarmerie Nationale devait être harcelée d'appels après les articles de la presse locale. Et du coup, sans avoir le temps de mener l'enquête, donc ils se sont dit, bon, vu que le Centre d'études des phénomènes spatiaux, le truc sérieux, ne répond pas, on va appeler le GEPAN.
On va appeler le BDE.
Voilà. Je pense que c'était leur deuxième choix et qu'ils se sont rabattus sur lui très vite. Ils ont externalisé, hein, comme on dirait. Et donc voilà, vendredi 16 janvier, parution à nouveau d'un article dans Var Matin République qui ne parle plus que de ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un témoignage, et là il titre « Ces ovnis qui sillonnent le ciel varois ».
Ouais, mais enfin...
Pas mal.
Je reviendrai là-dessus après.
Ah, ok.
Parce que dans la perception locale, il y a beaucoup d'ovnis dans l'arrière-pays. Donc c'était pas... Là, il y avait Renato, c'était la goutte d'eau. Mais on a toujours eu des témoignages d'ovnis sur les hauts plateaux.
Donc beaucoup de gens ivres du coup, c'est ça ?
Non, on en reparlera après si tu veux quand on termine ta chronologie, mais c'est un vrai phénomène local.
Et alors là, chose assez rigolote encore, il va falloir attendre le 23 janvier, donc hein, l'événement a eu lieu le 8 janvier, pour que les échantillons soient enfin prélevés par la gendarmerie. C'est-à-dire que voilà quoi. À la fin du mois, il décide de se bouger pour au final, en fait, clôturer l'enquête le 5 février 1981. Le général commandant régional de la gendarmerie nationale clôture l'enquête. Et le GEPAN, on ne sait pas trop ce qu'ils font puisqu'ils sont allés faire leur prélèvement que le 17 février, hein, encore plus tard que la gendarmerie. Et ouais, voilà, ils devaient être surbookés à ce moment-là. Et ce qui est frappant, en fait, au-delà de la détente qu'il peut y avoir globalement chez tous les parties prenantes de cette histoire, c'est le nombre de médias en fait qui vont s'y intéresser après coup. C'est-à-dire qu'à partir de 83-84, il y aura des articles dans la presse nationale, à partir de 85, il y aura des émissions de télé, et ça va jusque dans les années 90, il va y avoir plusieurs émissions de télé, même sur TF1, hein, à des heures de...
Il y avait Mystère, Mystère qui avait fait son premier épisode, je crois, sur...
Ouais, exactement.
Ouais, exactement.
Les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'était la seule émission de paranormal hors de grande écoute. C'était génial.
C'est génial. Les archives sont dispo sur YouTube.
Ouais.
Et il y en a certaines qui sont fabuleuses. En fait, pour les gens qui n'ont jamais vu Mystère, c'est donc il y a des reconstitutions qui sont jouées par les gens à qui c'est arrivé.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens ne sont pas comédiens professionnels, mais ils refont en mode le jour où tout a basculé, ce qui leur est arrivé. Et c'est fabuleux. Il y a un témoin, notamment sur une maison hantée en Normandie avec des pommes qui traversent des murs. Celui-là, je vous le conseille vivement. Et celui sur Trans-en-Provence est assez fabuleux aussi.
Et du coup, bah, les médias vont continuer d'en parler jusqu'en 2012, parce que j'ai retrouvé en 2012 une interview encore de Var Matin, le site web cette fois, avec notamment des policiers à la retraite qui avaient été contactés, et Renato en question, qui est toujours vivant, enfin en 2012 en tout cas il était, des policiers à la retraite qui reviennent sur l'affaire et qui racontent à quel point ils l'ont prise au sérieux. Hein, donc ce qui ressort quand même des documents, c'est qu'ils sont allés sur place, qu'ils ont constaté un truc et puis qu'ils se sont barrés parce que bon bah il n'y avait pas non plus de choses à faire. Et donc voilà, pour conclure, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, Renato est fin d'octogénaire même, qui vit sa vie à Trans-en-Provence et il vit toujours dans la même maison.
Bah, avec la sonde qu'ils lui ont collée, là, les aliens, il va vivre jusqu'à 250 ans.
Il accueille encore de temps en temps des journalistes de la presse locale pour parler de cette fameuse fin d'après-midi 1981.
Belle reconstitution. Non, mais c'est une histoire connue, je disais. Et c'est vrai que c'est un double tranchant, l'histoire de Trans. C'est que c'est effectivement une catastrophique enquête. Une catastrophique enquête, un témoignage un peu... Bon, Renato, il est gentil, mais on aurait bien voulu deux témoins. Et puis, s'il faut, il a fait du drifting avec son tracteur.
Oui, mais... c'est une des hypothèses avec sa bétonnière.
Avec
c'est
sa bétonnière. Mais, c'est vrai que tout l'arrière-pays, Grassois, Canois et Niçois, est le terrain de plein de manifestations étranges d'un point de vue ufologique. Il y a des associations très actives. J'ai des amis journalistes qui ont même passé plusieurs journées en immersion avec ces assos. Et c'est des passionnés qui passent leur week-end entier à aller regarder. Mais en même temps, si on part un peu de la logique, si t'es un extraterrestre et que tu te balades en soucoupe et que t'es sur la zone Europe, où est-ce que tu atterris, où est-ce que tu peux te baser à peu près sans éveiller trop de soupçons? Si tu regardes en avion quand t'arrives sur la Côte d'Azur, c'est la première zone sombre que tu vois. Mmh. Première zone sombre et plate, ce sont les hauts plateaux, justement, plateau de Caussol, plateau au-dessus de Vence, Trans-en-Provence, toutes ces hauteurs comme ça sont intéressantes. Donc là, Trans-en-Provence, c'est un peu plus loin, mais au niveau du plateau de Caussol et des hauteurs de la Côte d'Azur, il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations. Hein. Donc
le jardin de Renato était sans doute la piste à ce moment-là. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'ils sont rapprochés à un mètre du sol. Ils ont vu Renato.
Non, ben, ouais, à mon avis, ils voulaient venir plutôt autour de Vence, etc. Et ils se sont dit, mais attends, Roger, tu t'es trompé, là, c'est pas ici.
C'est
donc, c'est pour ça qu'ils sont restés à mettre du sol. Ils disent, mais c'est qui ce blaireau, là, qui fait un mur? Allez, on se barre. C'est ça qui s'est passé, hein. Mais c'est terrible.
Eh bien, écoute, je pense que, encore une fois, il a résolu l'affaire.
Il a résolu, il a encore résolu l'affaire.
Suffit de demander, c'est quoi cette émission? Suffit de demander.
Putain, c'est pas le patron de Riviera Ferraille pour rien.
Allez, résolu.
Le mec, il arrive, il classe toutes les affaires. Pas de débat direct. Non, mais ça, c'est
non,
ça.
Non, mais je veux pas de travail à faire après. Je veux pas de contre-enquête. Ou de...
La paperasse, tout ça, on n'a pas... pas envie de...
Non, mais puis Renato, il a complètement oublié le truc. Il est perdu, Renato.
Écoute, un bisou à Renato. Si
un bisou
écoute.
À Renato, ouais.
Et un gros bisou à tous les habitants de Trans-en-Provence parce que Henri a dit quand même tout à l'heure que bah il y avait rien.
Il y avait rien à faire.
Non, si.
C'est que Plus belle la vie a eu des polémiques pour moins que ça. Hein.
Non, bon, des copains, j'ai plein d'amis de Trans.
Bon, est-ce qu'on passerait pas à ton histoire, bon. Henri, parce que on a très envie de l'entendre quand même.
Allez, c'est parti.
Clic.
Le Saint-Cloud de Carpentras. Ah, ça fait plaisir de faire, moi, le petit jingle. Alors, les amis, moi, je vais vous emmener à Carpentras. Et je vais vous raconter une histoire. Alors, elle existe sur Wikipédia, mais moi, j'ai tiré tout mon enseignement d'un guide dont j'ai déjà parlé dans mon émission Rivière à détente. C'est le guide de la Provence mystérieuse. Qui fait partie des guides noirs des éditions Chou, ça existait dans les années 70-80, ça a été réédité plusieurs fois, et c'est des guides qui sont très prisés, qui coûtent très cher en brocante, parce que c'est des guides noirs, ça recèle tout ce qui est bizarrerie, diablerie, mythes, légendes, etc. autour d'une région, t'as des thèmes, t'as aussi le guide de la Bretagne mystérieuse qui est génial, et bref, le guide de la Provence mystérieuse, je l'ai désossé ce guide, je connais par cœur. Et j'en avais fait même une spéciale dans mon émission. Et là, je vais vous parler alors d'une histoire assez surprenante parce qu'elle est peu connue. C'est celle du Saint-Cloud. Alors, le Saint-Cloud, on l'appelle aussi le Saint-Mort. M-O-R-S. Pas la mort. Le mort, c'est le mort, c'est le frein qu'on met dans la bouche du cheval, vous voyez, derrière les dents et sur lequel on tire quand on veut le faire freiner. Et en fait, c'est lié à un moine... un évêque mérovingien qui s'appelait Saint Cyfrin. Alors vous allez dire, c'est marrant, un frein de cheval, Saint Cyfrin, mais certains exégètes qui disent que c'est bizarre comme... Bref. Et Saint Cyfrin, il était connu parce qu'il était guérisseur, exorciste. Il a vraiment un pouvoir magique selon les gens. Alors on parle d'une légende, hein. On parle pas de religion, ça va traiter pas mal de la religion catholique, mais là on parle surtout d'une légende populaire. Et donc oui, il guérissait, il exorcisait, tranquille quoi, il était très fort là-dedans. Surtout que quand tu viens de Lérins, moine de Lérins, les Reims dans la... C'est l'île qui est en face de Cannes. Sa légende est incroyable. Le diable l'aurait envahi de serpents. Il y a un moine qui a enjambé l'île. Enfin bref, je vous passe les détails. Saint-Siffrin, il était moine de les Reims. Il était guérisseur et exorciste, mais en fait, il tenait pas son pouvoir de lui-même. Il possédait un objet qui était le Saint-Cloud. Ou le Saint-Mort. Alors, attendez. Il est mort. Quand il est mort, son corps... c'est une anecdote pour vous montrer encore son power. Son corps a été volé par des brigands et ils ont perdu la vue au milieu du chemin. Et on a retrouvé le corps direct. Les mecs, ils étaient en PLS. Ouais,
ouais. Même avaient... mort, le mec, il est encore...
Ouais, ouais. Il est en vrai. Et donc...
C'est le Saint-Cloud qui l'aura cloué.
Et alors, il est à l'église de Saint-Siffrin à Carpentras. Et à la cathédrale de Carpentras, il y a donc sa relique qu'il transportait tout le temps avec lui, c'est le Saint-Cloud. Alors, le Saint-Cloud, le Saint-Mort, il a quelle forme ? C'est un vrai mort de cheval. Donc, c'est une sorte de barre métallique qui aurait été, et là, c'est là toute l'histoire, elle aurait été forgée avec des clous de la Passion du Christ. C'est-à-dire les clous avec lesquels on a crucifié Jésus. Donc, il y en a quatre, normalement. Si je suis sur vêtements techniques.
Pour les pieds, je crois qu'il n'y en avait pas qu'un pour les pieds, un truc comme ça.
Ah oui, il y en avait. Ah ouais, il y en avait trois. Ouais, que trois, je suis bête. Tout à fait, oui, il n'avait pas que les pieds écartés. Ça ferait une nouvelle religion. Ça ferait un X. C'est plutôt les X-Men. D'ailleurs, j'ai vu la fin de Logan où il y a la croix qui est renversée. Je me suis dit, ça va être. Alors, non, il y a trois clous. Et bien, ces trois clous, ils auraient été retrouvés en 326. Par la mère de l'empereur Constantin, Hélène, qui fouillait l'endroit où il avait été crucifié, quoi, parce qu'elle était fangirl, et elle a vu de la lumière qui est sortie de la terre, et elle a retrouvé les trois clous qui avaient servi à crucifier Jésus. Et,
trois siècles après, quand même.
Oui, mais ils ont fouillé, c'était des vraies fouilles, hein, elle avait du pognon, elle a fait tout creuser autour, et ils ont trouvé les trois clous. Elle en a jeté un dans la mer, pour calmer les flots.
Pour le plaisir.
Non. Pourquoi ? Pour protéger les marins. Ne soyez pas moqueurs. Pour protéger les marins, pour calmer les flots. Et la jeter dans l'Adriatique. Mais, autre anecdote, ce fameux clou qu'elle a jeté dans l'Adriatique, il ne coula jamais. Il a été retrouvé hyper easy. Et il a été offert au trésor de Trèves en Allemagne. La cathédrale de Trèves en Allemagne. Si vous allez à la cathédrale de Trèves en Allemagne, ils ont un clou, ils disent c'est un clou de la Passion du Christ. Il y a quelque chose de très troublant après que je vais vous raconter là-dessus. Donc il y a deux autres clous. Elle les fait fondre pour faire un mort, pour le cheval de son fils, pour le protéger. Donc c'est quand même la classe, t'as un cheval, le frein de ton cheval, il est fait en deux clous de Jésus fondus, quoi. Enfin, pas les clous de Jésus, mais c'est les clous de la Passion du Christ. Et... on prétend, chose invraisemblable, que Constantin lui-même, il offra le Saint-Cloud à Saint-Séphrin, mais on pense plutôt que c'est les croisés qui l'ont ramené de Constantinople. D'accord ? Il aurait récupéré des croisés. Et là, il y a un détail super troublant, c'est que le poids de ce morse qui serait fait... alors, il y a d'autres versions qui disent qu'il a été fait que d'un clou. Ce qui est déjà pas mal, hein. on va pas bouder notre plaisir. Ça fait 350 grammes, et c'est prolongé par un fourreau d'argent doré. Et le truc troublant, c'est que le clou de Trèves en Allemagne, qui serait issu de cette fouille et tout, il pèse exactement le même poids. Oh. C'est quand même chaud, parce que je vous rappelle le truc, elle retrouve trois clous, elle en jette un dans l'Adriatique, ça flotte, ça arrive, ils le prennent en Allemagne, elle fait fondre un mort de cheval que les croisés ramènent à Saint-Siffrin, les deux trucs de chaque côté de ces deux spectres pèsent le même poids au final, quoi. C'est quand même troublant.
J'avoue, bon. C'est assez curieux.
Bah, c'est peut-être un minimum
curieux.
Ouais. Ceci dit, si tu vas à Brico Dépôt, je suis sûr que tous les clous que tu trouves, ils font à peu près tous le même poids. Hein.
Ouais, enfin, un clou de 350, c'est déjà... Et puis, il n'y avait pas de Castorama à l'époque. Hein,
Ouais, c'est vrai.
Du coup, ça voudrait dire qu'ils auraient pris vraiment des clous très spéciaux.
À minima, les mêmes. À minima, les mêmes. C'est-à-dire, comme un peu le Saint-Suaire qui daterait, en fait, pas du tout de l'époque de la Passion du Christ. Mais à minima, ils ont quand même fait un canular qui est allé se répandre à Trèves en Allemagne et jusque, soi-disant, Constantinople, puis Saint-Siffrin, pour finir à Carpentras, quoi. Ça fait gros prank. Tu
parlais d'une blague
qui a bien marché. Ça fait gros prank, quoi. Hein. C'est... on a fait des faux clous. Ça a mal tourné.
Explication.
Explication.
On prend que l'église catholique.
On prend que l'église catholique. Elle n'a pas apprécié. Alors, il était énormément utilisé, ce Saint-Cloud, même quand Saint-Siffrin est mort. Il est inoxydable, il n'a jamais rouillé, et pourtant il est en fer. Il est indorable, c'est-à-dire tu ne peux pas le rajouter de dorure par électrolyse dessus. No way, c'est pas la peine. No way, Jose.
Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont essayé, quoi.
Bah oui, la première chose que tu fais quand tu vois un clou, c'est d'essayer de le dorer. Je sais pas, c'est... Non, mais mine de rien, quand t'as une relique, ils aiment bien dorer les reliques ou rajouter des igouigouis, tu vois, pour le rendre un peu plus joli. Quand il y a des crânes, ils essaient toujours de mettre des trucs en or autour. Et là, ils n'ont jamais réussi à le...
Pimp, pimp, my relique.
My relique. Et il faisait des miracles. Il est responsable de plein de miracles, soi-disant. Il y a quand même un moine qui a écrit au 6e siècle un livre qui vous intéresserait, je pense, pour un bureau des mystères, qui s'appelle Le Livre des Miracles, où il fait un peu la liste de tous les miracles zarbi. C'est Grégoire de Tours. Et il parle des effets de ce Saint-Cloud, que Justin II le Jeune, sujet à des accès de démence, aurait été guéri par le Saint-Cloud, tu vois. Donc, c'est pas rien. Et puis, ça a chassé les esprits malins du corps humain, quoi. Le pape Clément VII l'a utilisé aussi pour faire des exorcismes. Il guérissait par l'attouchement, l'imposition, et même à la vue, il arrêtait les névralgies ou les saignements. Et il aurait aussi le pouvoir d'éloigner la peste et le choléra jusqu'au 18e siècle, quand même. C'est pas... Lors des épidémies, on se baladait dans la ville avec le Saint-Cloud pour contribuer à ralentir la peste et le choléra. Voilà. Il y a eu un véritable trafic, d'ailleurs, jusqu'au 18e siècle. C'est-à-dire que les gens venaient voir la relique avec plein de petits clous, de mini-clous, en fait, de vrais clous, en or, qui s'imprégnaient un peu de la magie, soi-disant, et revendaient dans la région, en toute la Provence, un clou en or qui aurait été en contact avec le Saint-Cloud. Donc il y a vraiment un truc autour du clou de folie, quoi. Voilà. Et donc ce clou existe encore, il est toujours présent dans cette église de Saint-Siffrin ou alors dans la cathédrale de Carpentras. Et voilà quoi, j'ai trouvé cette histoire, on parle souvent du Saint Graal, mais finalement le calice, c'est 100 fois moins powerful que le clou qui a touché la chair du Christ, tu vois, dans la tête des gens. On a fait des films autour du Saint Graal. Mais le Saint Clou...
C'est plus méchant comme objet.
Ouais, mais alors figure-toi, là j'ai de petits toppings à faire là-dessus, c'est qu'il y a aussi un clou à Draguignan. Donc on est sur une thématique de clous qui guérit les accès de démence. Mais alors ce clou-là, il serait aussi issu de la passion du Christ, mais il a été brisé. C'est-à-dire que
pensait le peser.
Ça fait pas partie des trois clous qui ont marché entre guillemets. Mais il n'a pas réellement servi au supplice. Il a été cassé et il est à Draguignan.
Ah donc c'est un quatrième clou.
C'est un quatrième et celui-là il est cassé. Ouais. Il a,
tu sais, quand tu le destin d'un clou, ça se joue.
Ouais, ah bah, quand... tous ceux qui ont fait du bricolage, je veux pas blasphémer, mais bon, du premier coup, c'est sûr, on voit pas, il raconte pas dans la Bible le supplice, quoi. Mais peut-être il y a eu un ou deux clous qui sont passés à la casse avant, quoi.
Et t'imagines dans la Bible, alors on a essayé d'en mettre un en premier, ça a pas marché.
C'est pas possible, ils peuvent pas raconter ça. Et une autre histoire, toujours avec des clous, pour vous parler de l'importance qu'ont les clous, à Cabas, c'est en Provence, hein, près du village actuel, ils ont trouvé une nécropole stupéfiante. Il y avait 34 tombes. Les morts y étaient incinérés sur un épais tapis de branches, d'après ce qu'on voit dans les fouilles et tout ça. Et chaque tombe contenait une lampe romaine dont on sait qu'elle servait à fournir aux esprits des morts la lumière, tu vois, pour se guider, un peu comme dans beaucoup de traditions, il y a toujours un éclairage ou une bougie ou des choses comme ça, ou une maglite, peut-être pour les gens plus modernes. Mais il y avait aussi, dans toutes ces tombes, beaucoup de clous de chaussures. Et en fait, les clous servaient symboliquement, à l'époque romaine, dans cette région-là, à fixer l'esprit du défunt à sa demeure certaine. C'était un symbole de dire, bon, reste ici, ne sors pas de la tombe pour venir nous hanter. Et le clou a toujours eu une valeur magique dans les cercueils. Et autour de certaines urnes funéraires, on a souvent retrouvé beaucoup de clous. Et ça servait de ceinture de protection. On parle souvent du sel. Vous avez parlé du sel la dernière fois pour l'homme de minuit. Même My Dear David, il utilisait de la sauge et du sel. Eh ben, sachez que les clous ont toujours eu, dans notre belle Provence, une valeur de protection. Voilà. C'était mon histoire du clou provençal.
Du coup, je me pose une question. Est-ce qu'il y a un lien, du coup, avec l'expression « ça vaut pas un clou » Genre, est-ce que tu vois, genre, ça vaut pas le pouvoir d'un clou. Est-ce qu'il y a un rapport le clou dans l'imaginaire provençal?
Ça vient de là. L'expression « ça vaut pas un clou », il n'y a pas de métaphore, c'est que ça vaut même pas le prix d'un clou. Qui n'est pas cher.
Un clou, ça valait tant de choses.
Mais chez nous, c'est oh là, ça vaut un clou ce que t'as fait. C'est, ce serait plutôt, tu vois, dans l'autre sens, mais ça vaut pas un clou, ça veut dire que ça vaut même pas le prix d'un clou.
C'est l'expression qui marche pas du coup en Provence, quoi.
Ah non, voilà, ça vaut un clou, ça, hein. Non, mais je dis ça, mais c'est pas non plus une tradition. Je veux dire, moi, j'étais pas au courant de cette histoire et personne ici, je leur parle du clou, ils connaissent pas. Mais visiblement, il y a toute cette histoire de clou, de la passion qui se serait transmise, qui a été fondue dans un morse, qui passe exactement le même plot que notre clou et qui exorcise les gens et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça super kiffant.
Oh, mais c'est une très belle histoire, une belle épopée.
Épopée, on pourrait faire un beau film, le Saint-Clou. ça pète moins que Saint-Graal, mais l'affiche déjà est très graphique, tu fais un clou comme ça, ça serait beau. Hein. Et dans le guide de la Provence mystérieuse, il y a une photo du Saint-Clou. Du Saint-Maur, je vous la photographierai ou la scannerai et on voit le Saint-Maur, voilà. C'est bon.
Mais écoute, beau niveau de mystère autour des clous.
Ah niveau, là, le mystère est total. Hein.
Mystère, ouais.
Ouais. Non, mais c'est vrai, le mystère est. Pour moi, c'est compliqué de. Parce que les datations, le Saint-Suaire, par exemple, il a été débunké. Grâce à de la datation, ils ont montré que ça datait du Moyen-Âge et pas du tout de l'époque de Jésus. Je ne sais pas s'ils ont poussé la motive à aller à Carpentras faire une datation des clous, mais c'est une sacrée histoire.
Mais tu peux faire au carbone 14 le métal ?
Je sais pas, mais j'ai
non, mais le Saint-Suaire, ils ont réussi. Ouais. Je dis pas carbone 14, mais le Saint-Suaire, ils ont réussi à le dater. Donc le Saint-Cloud, enfin quoi que le fer à mon avis, je sais pas, ça doit être.
Bah si, il y a peut-être si il est épais, il y a peut-être un niveau d'oxydation qui est.
Mais il oxyde pas. Mesuré.
Il oxyde pas.
Ouais, en apparence. Mais peut-être que si.
Il est sacré, on t'a dit.
Il est sacré. Bah,
s'il a pas bougé, tu vois.
Il va perdre la vue, tu vas rien comprendre. Hein.
moque-toi du coup, ouais. Vas-y.
Demain, il va nous appeler pour dire qu'il est aveugle, bah. Tu l'auras cherché.
Il y a un clou à côté de mon lit, je sais pas ce qui se passe.
Bon, bah, mystère à suivre. Ben, je vais aller à Carpentras voir un peu ce qu'il en est.
Là, tu nous tiens au courant.
Allez, bisous, j'y vais.
Bah merci pour.
Bah écoutez, pour j'étais très honoré d'être dans un bureau des mystères.
Et bah, nous, c'était un honneur de te recevoir.
Et on est très content de vous avoir chez Riviera Ferraille. Et vous avez beaucoup de. Alors comment on appelle. Alors là, premier débat. Comment on appelle les auditeurs du bureau des mystères?
Ah. Putain, ça, c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé en fait.
Mais c'est important, hein, faut le trouver.
Mais toi,
les collègues, faut le trouver pas un truc, pas les collègues, mais un truc genre les membres du bureau, tu vois, les co-membres. Parce que.
Les collègues.
Co-membres. Salut les co-membres. On va parler de la pompe Arenato.
Ça, c'est les grosses têtes.
Non mais faut trouver. Bah écoute, on va faire un petit sondage sur le compte BDM le podcast. On vous fera un petit sondage sur Twitter. Savoir comment on appelle les auditeurs du bureau des mystères.
Ouais, envoyez-nous vos suggestions.
Ouais, ça pourrait être une bonne.
On va regarder tout ça. On verra ce qu'on peut récupérer. On veut pas les mystérios. C'est trop.
Fini ça.
C'est trop.
C'est fini les os. Ouais. Moi j'aime bien les sélénites. Tu vois les hits flickerites. On disait aussi. Les mystérites, non, ça fait bizarre.
Ouais, mystérites,
ça fait champignon.
Pas... On trouvera bien ça. Bon, Henri, est-ce que tu peux dire aux auditeurs où on te retrouve, même si je pense qu'ils savent déjà où te trouver ?
Eh bien, Riviera Détente, c'est mon podcast personnel, et je fais aussi Spoiler Arrière, où on parle de... Okay, on vient de finir la deuxième saison, mais c'est vraiment catch-upable.
Si ah, super vous saison, écoutez-la.
Ah ouais, on a fait une belle finale à Paris en public et on a plein d'autres podcasts sur rivieraferraille.com. Il y a Nanarland qui sont arrivés à peu près au même moment que vous, un peu plus tard. Et voilà, et Ref Nécessaire, enfin on rigole bien quoi, voilà. On rigole bien.
Et ben nous, vous pouvez nous retrouver donc sur le compte Twitter @BDM le podcast. sur la page Facebook de notre autre podcast qui n'est pas avec, avec Henri et Riviera Ferraille, donc le, qui s'appelle Inspiré de faits réels. Donc vous l'écoutez si ça vous intéresse aussi. Et donc voilà, allez surtout sur @BDM le podcast sur Twitter pour nous faire, donc, comme on a dit, les suggestions hein, de noms. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle ?
Comment ça s'appelait le dessin animé de ton enfance là, dont tu te rappelais
les
pas
Diplodos.
Ah, ils vont tous répondre les Diplodos.
Ouais, ah ouais. Ah,
salut les Diplodos.
Mais quelle bonne idée.
C'est vrai que c'est une bonne idée.
Voilà. Bon, bon bah, salut les gars. J'ai plein de joie, joie plein. Ils sont dans des sortes de locaux de poussière avec des ovnis affichés sur les murs. Ils ont des dossiers sur la table là avec des mugs de café. Mais c'est fou tous les dossiers que vous avez pas encore traités là.
Ah bah on en a pour des années là.
Oh là là, bon courage. Là, je vois une photo d'extraterrestre qui dépasse là. Ça fait un peur. Hein. Oh là là, vous arrivez à dormir avec tout ça?
Oui, écoute, on essaye. Oui.
Bon,
on essaie de rester professionnel.
Eh ben bon courage, en tout cas je suis votre premier fan et bonne émission suivante.
Merci Henri. Et
salut
à bientôt
les
chers auditeurs.
Salut.
Salut les Diplodos.